Le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'infirmière interpellée hier lors de la manifestation parisienne des soignants pour outrage et jet de projectiles sur les forces de l'ordre est toujours en garde à vue ce matin. Quant à son interpellation musclée la veille diffusée sur les réseaux sociaux, elle n'en finit pas de susciter la controverse. Le maire socialiste de Dijon se félicite que la situation se soit apaisée la nuit dernière dans le quartier des Grésilles. François Rebsamen qui dénonce cette horde de Tchétchènes qui s'est abattue sur sa ville. L'eau du robinet contient des traces de pesticides et de perturbateurs endocriniens présumés. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'association Génération Futur publié aujourd'hui. Invité de ce journal, son président François Weyrette. À l'étranger, la Chine a dit ce matin espérer un apaisement avec l'Inde après un incident meurtrier qui a opposé les deux géants asiatiques sur leur frontière disputée de l'Himalaya. Nous nous intéresserons également à ces subventions qui mettent en désavantage la compétitivité d'entreprises européennes. Et puis, nous irons en Turquie après qu'Ankara a annoncé le déploiement de commandos dans le nord de l'Irak. Après 3 mois de crise sanitaire et davantage encore de journées de grève pour alerter sur la situation catastrophique de l'hôpital, médecins, infirmières, aides-soignants avaient choisi de descendre dans la rue hier afin de rappeler en fanfare et en musique au gouvernement ses promesses en plein Ségur de la santé. Au total, plus de 250 rassemblements ont eu lieu à travers tout le pays. Et à Paris, au moment où les blouses blanches, bleues et vertes arrivaient sur l'esplanade des Invalides, voilà que la manifestation a soudain cédé la place à plusieurs centaines de manifestants habillés en noir qui ont mis le feu à du mobilier urbain et jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Les policiers ont aussitôt répliqué avec de nombreux tirs de lacrymogènes avant qu'à leur tour des CRS ne lancent plusieurs charges. Et c'est donc dans ce climat à la fois tendu et chaotique qu'est apparue une vidéo choc diffusée sur les réseaux sociaux sur laquelle on peut voir une infirmière, Farida, 52 ans, se faire interpeller sans ménagement avant d'être embarquée. Une scène qui arrive évidemment à un moment délicat pour l'ordre public, en l'occurrence dans la foulée des manifestations contre la police accusée de discrimination et de violences excessives, de sorte, Margot Delpierre, que cette interpellation a rapidement fait polémique.
On la voit par terre, tirée par les cheveux sur l'une des vidéos, puis les policiers l'encerclent et la maintiennent au sol face contre terre. On l'entend dans ces images filmées par un journaliste du Média Brut crier « J'ai de l'asthme, je veux ma ventoline ». Elle est ensuite évacuée, le front ensanglanté, et emmenée au commissariat du 7e arrondissement, devant lequel hier soir une vingtaine de personnes se sont rassemblées pour réclamer sa libération. Les images de cette femme en blouse blanche ont rapidement circulé et choqué de nombreux internautes. Elle jetait des projectiles juste avant son interpellation. Assure le syndicat indépendant des commissaires de police qui relaie sur Twitter une autre vidéo. Elle montre une femme ressemblant à l'infirmière lancer des objets sur les forces de l'ordre et leur adresser des doigts d'honneur. Toujours en garde à vue ce midi, elle a reconnu avoir jeté ses projectiles. Elle a craqué, épuisée par son travail, selon son avocat. Mais pour certains, les conditions de son interpellation sont disproportionnées. Cette femme, 50 ans, 1m55, asthmatique, c'est ma mère, affirme une journaliste sur le réseau social. Elle a bossé pendant 3 mois, entre 12 et 14 heures, a eu la Covid. Elle manifestait pour qu'on revalorise son salaire. Quoi qu'il lui soit reproché, rien ne justifie ces images, écrit-elle. Les investigations se poursuivent, précise le parquet de Paris. Il ne s'exprimera pas avant la fin de la journée sur cette affaire très médiatisée et qui survient en plein débat sur les violences policières.
Après 4 nuits de violence d'une rare intensité, le calme a fini par revenir hier soir au Grésilles, ce quartier populaire du centre-ville de Dijon, qui aura vu s'affronter habitants et membres de la communauté tchétchène. Des scènes sans précédent dans la capitale bourguignonne, incarnation de la ville bourgeoise et connue jusque-là pour sa tranquillité. Sauf que ces événements pointent sans doute une réalité plus complexe sur fond de trafic et de grand banditisme lié à cette communauté tchétchène, donc particulièrement localisée dans l'est de la France. Je vous propose d'écouter sur ce point l'analyse de Fabrice Risoli, docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la grande criminalité, joint au téléphone par Florence Turm.
La communauté tchétchène est connue pour raisonner de manière clanique, et c'est normal, ils ont fui la guerre, ils sont sur un territoire étranger, ils se comportent ainsi en Espagne, en Allemagne, en Belgique, où il y a aussi une forte diaspora. Ce sont des personnes, disent les policiers français, qui sont connus pour leur courage physique et leur capacité à régler des problèmes. Donc, parfois, ça en fait des personnes qui sont donc éligibles à la délinquance organisée, à la violence, comme on le retrouve dans certaines affaires d'extorsion, de vol de voiture, de stupéfiants, de faux papiers, évidemment, de l'immigration clandestine. Et quand même à noter qu'ils sont connus pour avoir infiltré le milieu de la sécurité dans les établissements de nuit sur la Côte d'Azur. Une diaspora, c'est peut-être uni, ces gangsters et ces non-gangsters, pour répondre à un acte violent qui avait été fait à l'encontre de l'un de leurs jeunes. Et là, on pourrait assister à une espèce d'alliance entre des gens qui n'ont rien à voir avec la délinquance et le crime organisé, et des gens dont c'est le métier, qui ont peut-être eu une réaction commune pour se défendre. Et en fait, en face, à Dijon, ça serait la même chose. Dans le quartier des Grésies où vivent 7000 personnes, vous avez quelques coteries trafiquantes du trafic de stupéfiants, voire de l'extorsion, etc., qui seraient descendues avec leur kalachnikov, voire avec leurs armes factices, pour défendre l'ensemble de la communauté des Grésies, voire de la communauté des Français d'origine étrangère, encore ça reste à prouver. Et donc là, on aurait une alliance objective sur un phénomène qui n'a peut-être rien à voir, peut-être.
Voilà, Fabrice Risoli, docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, il répondait à Florence Turme. Débat sensible en vue à l'Assemblée, les députés examinent aujourd'hui en première lecture un projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet, avec toutefois une période transitoire jusqu'à l'automne, période durant laquelle des restrictions resteront possible. Ce qui a aussitôt fait bondir les oppositions de droite comme de gauche, lesquelles dénoncent un état d'urgence qui ne dit pas son nom, et ce, alors même que le chef de l'État a vanté dimanche dernier un quasi-retour à la normale. Alors concrètement, le texte permettra des restrictions sur la circulation des personnes, l'accueil du public dans certains établissements, ou bien encore les rassemblements, et ce, jusqu'au 30 octobre. Tandis que le gouvernement l'assure, le plan de relance sur lequel il travaille accordera une place inédite à la transition écologique. Voilà que plusieurs défenseurs de la cause environnementale lancent aujourd'hui un appel inédit né pendant la période de confinement, l'appel du 17 juin contre la réintoxication du monde. Alors concrètement, l'objectif vise à manifester, bloquer ou investir aujourd'hui des lieux jugés toxiques écologiquement et socialement. Et l'idée a visiblement séduit plus de 150 collectifs opposés à des projets néfastes pour l'environnement, qu'il s'agisse d'un terminal pétrolier dans l'eau, d'un entrepôt Amazon dans le Gard ou bien encore d'un projet d'autoroute en Dordogne. Je vous propose d'écouter Benoît de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à l'origine donc de cet appel. Il répond à Véronique Reverotte.
L'idée, c'est vraiment de lancer de nouveau un cycle d'action contre la réintoxication du monde, en se disant qu'on peut pas compter sur nos gouvernements, sur les lobbies nucléaires, agrochimiques, industriels, pour prendre les mesures qui s'imposent en termes environnementaux, qu'on pense que le moment du confinement a créé un moment de lucidité, de grande émotion sur la question de l'empoisonnement du monde, et que maintenant, nous, notre expérience depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est que c'est quand même l'action de terrain qui peut réussir à préserver des terres, qui peut réussir à ce que des projets nuisibles, toxiques, ne soient pas menés à bien, ou même à ce que des industries, à ce que des sites de production de ce type s'arrêtent. En tout cas, dans ce qui sera visé, il y aura des usines d'engrais, de pesticides, de la construction aérienne, des plateformes Amazon, des fermes-usines de poulets. Il y aura des sites aussi naturels, des zones humides, des terres arables, des terres cultivées, une forêt à côté de Rouen, etc. Tout un tas de sites aussi qui menacent d'être détruits par des projets de bétonnage et d'industrialisation. Et pour nous, c'était tout à fait aussi important, c'est pour ça qu'on a mené cet appel avec des syndicalistes, que la question des travailleurs, effectivement, de ces sites de production soient pris en compte et fassent partie des enjeux, parce que s'il y a des luttes aujourd'hui environnementales, écologiques à mener, il faut qu'elles se fassent aussi avec les travailleurs des sites concernés.
L'eau du robinet, l'aliment pourtant le plus contrôlé en France, est-elle dangereuse pour la santé? Depuis son captage dans le milieu naturel jusqu'au consommateur, l'eau dite potable fait l'objet de multiples analyses, sauf que cette vigilance ne la met visiblement pas à l'abri de toute contamination. Selon un rapport de l'association Génération Future rendu public ce matin, l'eau du robinet contiendrait des traces de pesticides et de perturbateurs endocriniens présumés. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction, François Veyrait, président justement de Génération Future. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour, directeur de Génération Future.
Directeur, pardon, également avec nous par téléphone pour vous interroger, Véronique Robert-Rod. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors précisons tout d'abord que votre association n'a pas fait elle-même ses propres analyses, mais a épluché celles effectuées par les agences régionales de santé qui contrôlent donc la qualité de l'eau du robinet. C'est ce travail de compilation qui vous conduit aujourd'hui à vous montrer inquiet. Pour autant, et afin de dissiper tout malentendu, diriez-vous que l'eau du robinet n'est pas potable ?
Alors tout à fait, on a travaillé avec des données officielles qui sont mises en ligne depuis l'année dernière. Les résultats de toutes les études sanitaires des agences régionales de santé sont mises en ligne depuis l'année dernière sur le site data.gouv.fr. C'est une bonne chose. Alors nous, notre sujet, c'est pas de parler de la potabilité ou de la non-potabilité de l'eau. Ça, ce sont les autorités sanitaires qui décident de la potabilité de l'eau par rapport à des normes qu'elles fixent elles-mêmes. Nous, le travail qu'on a fait, c'est d'aller mouliner ces données, des centaines de milliers de lignes de données pour regarder les caractéristiques des molécules de pesticides retrouvées sous forme de résidus dans plus de 38% des cas où on les a cherchées. Et on a eu un certain nombre de surprises quant à la nature de ces molécules. C'est l'objet de ce rapport aujourd'hui.
Question de Véronique Robert-Roth.
François Vigrette, ben parlons de la nature de ces molécules. Vous avez retrouvé sur les 10 substances chimiques retrouvées, 7 sont non autorisées par exemple. Ça veut dire que depuis 15 ans, 20 ans, on ne devrait plus les utiliser en agriculture et elles sont là pourtant.
Oui, alors, au total on trouve 180, je crois, de mémoire, substances différentes. Sur les 10 les plus souvent retrouvées, effectivement, on en retrouve 7 qui ne sont plus utilisées en agriculture aujourd'hui, qui sont interdites depuis quelques années, et 3 qui sont encore autorisées. Alors ça nous dit une chose, c'est que quand on fait des erreurs et qu'on emploie des produits qui ont la capacité à avoir une certaine persistance dans l'environnement, qu'on les utilise de manière importante, eh bien on va les retrouver pendant très 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 longtemps dans nos nappes phréatiques, parce que ça descend lentement de la surface jusqu'au niveau des captages, à souvent moins 30 mètres, 35 mètres en dessous de la surface. Donc ça doit nous donner aussi une idée de ce qu'il faut surtout pas faire, c'est-à-dire mettre sur le marché des produits persistants, comme c'est le cas pour ceux-là, qu'on va utiliser pendant très longtemps. Mais on a aussi des produits encore autorisés aujourd'hui, qu'on retrouve en quantité importante. Et ça nous dit aussi qu'on continue à faire ces erreurs, les mêmes que celles qu'on a fait dans le passé, et que ce n'était pas qu'une question de pollution passée, mais également une question d'actualité.
François Vigrette, en fait, ce qui vous inquiète, on ne dépasse pas les normes, là, on ne parle pas forcément d'une eau polluée, comme vous l'a dit Thomas tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous inquiète dans tout ça? C'est des pesticides dont on ne connaît pas, enfin des résidus de pesticides dont on ne connaît pas les effets à long terme, leur effet cocktail aussi, et puis qui ont quand même éventuellement des effets sur des populations fragiles.
Alors, tout à fait. Alors, l'eau, elle est polluée. La présence des molécules de pesticides le montre. Les résidus de pesticides n'ont rien à faire dans l'eau du robinet. Donc, l'eau est polluée. Elle est la plupart du temps déclarée potable par les autorités parce que ce sont des normes qui sont fixées et des normes qui varient. C'est-à-dire qu'on a en Europe une concentration maximale admissible pour les pesticides dans l'eau. Et puis quand on la dépasse, les États peuvent, s'ils le veulent, fixer des seuils sanitaires qui sont parfois plusieurs centaines de fois supérieurs. Donc c'est cette petite manipulation qui permet de continuer à distribuer de l'eau qui est polluée au-delà des normes européennes. Mais passons, ces questions de référence aux normes, ça c'est le boulot des agences, c'est pas le nôtre. Nous, on a effectivement pu montrer qu'on avait plus d'un tiers des pesticides retrouvés, des résidus de pesticides retrouvés qui étaient ce qu'on appelle des CMR, c'est-à-dire des molécules qui sont à un degré ou à un autre cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Plus de la moitié, plus de 56% des pesticides mis en évidence sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des substances qui à très très faible dose peuvent interagir avec le système hormonal, et ça, on sait que ça va impacter particulièrement les jeunes enfants, les organismes sensibles, la femme enceinte et le bébé qu'elle porte.
Merci François Vigrette, directeur, je le rappelle, de Merci. Génération Future, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Véronique Robert-Roth. Utilisée pour traiter la ménopause, mais aussi les troubles menstruels et l'endométriose, le luténil et le lutéran provoqueraient un surrisque de tumeur bénigne. Un avertissement lancé ce matin par l'Agence nationale de sécurité du médicament l'an dernier. Plus de 400 000 femmes prenaient ce traitement. Depuis que les deux puissances nucléaires se partagent pas moins de 3500 km de frontières disputées le long de l'Himalaya, et malgré la récurrence des déclarations parfois, c'est vrai, incendiaires de part et d'autre, leurs soldats se regardaient le plus souvent en chien de faïence. Ou dit autrement, la frontière entre la Chine et l'Inde restait assez largement épargnée par les accrochages, hormis quelques face-à-face tendus, généralement conclus par des insultes et des jets de pierre lancés avant que les uns et les autres ne battent en retraite. Sauf que cette semaine, le conflit a pris une tournure sanglante. Dans la nuit de lundi à mardi, au moins 20 soldats indiens ont été tués lors du premier affrontement militaire meurtrier entre les deux rivaux en près d'un demi-siècle. Alors très rapidement, Les deux géants asiatiques ont exprimé leur volonté d'apaisement et affirmé vouloir résoudre cette crise par voie diplomatique. Il n'en reste pas moins, on l'a dit, que c'est la première fois depuis 75, donc l'Inde et la Chine, on arrive à une telle violence. Un conflit, Christian Chesneau, qui reflète surtout en réalité la compétition économique que se livrent les deux parties pour attirer ou retenir dans leur giron les divers États d'Asie du Sud qui les bordent.
Derrière des différents frontaliers anciens, c'est une gigantesque bataille d'influence à multiples facettes qui se joue dans cette région de l'Himalaya avec des arrière-pensées commerciales. L'Inde a engagé un vaste programme de construction de ponts et de routes au Ladakh, tandis que la Chine veut prolonger la route 219, un axe stratégique qui relie la région de Xinjiang et rejoint la frontière sino-vietnamienne. Après s'être longuement focalisé sur l'Asie de l'Est et du Sud-Est, la Chine cherche désormais à acquérir une profondeur stratégique dans la région de l'Himalaya dans le cadre de son projet des nouvelles routes de la soie. Opposée à ce vaste réseau d'infrastructures routières et portuaires, l'Inde tente de rallier à elle les pays qui s'inquiètent des ambitions commerciales jugées agressives de Pékin, comme le Japon, le Vietnam et les Philippines. Autre source de tension entre les deux pays, un déficit dans les échanges qui se creuse au détriment de l'Inde. New Delhi s'inquiète du surplus commercial chinois de près de 60 milliards de dollars. Enfin, dans le contexte de réchauffement climatique, il y a aussi une compétition pour contrôler les sources de l'Himalaya, château d'eau qui irrigue toute la région, autant d'irritants dans les relations entre les deux géants asiatiques.
Alors, il se trouve que la Chine et l'Inde ne partagent pas seulement aujourd'hui une frontière disputée, mais aussi une situation épidémique inquiétante. À Pékin, tout d'abord, le rebond du nombre d'infections faisant craindre la possibilité d'une nouvelle vague de contamination a poussé les autorités aéroportuaires à annuler plus d'un millier de vols au départ et à l'arrivée des deux aéroports de la capitale. Dès hier, les écoles ont par ailleurs été fermées et les habitants sont désormais invités à ne pas quitter la ville. Et puis en Inde, là-bas, le bilan humain de l'épidémie s'est alourdi de 2000 morts en un seul jour, portant le total à près de 12 000 décès. Face à la virulence de la crise sanitaire, les autorités ont ordonné le reconfinement de l'agglomération de Chennai à partir de vendredi. D'autant que si l'épidémie ne montre toujours pas de signes de reflux, les experts estiment que le pire reste encore à venir, sans compter que l'Inde redoute même une aggravation possible de la crise sanitaire avec la grande mousson annuelle et son cortège de maladies. Enfin, que dire à présent de l'Amérique latine où la pandémie continue de faire des ravages. Le Brésil a enregistré hier près de 35 000 nouveaux cas, un record de contamination en seulement 24 heures, accompagné de 1282 décès pour la même journée. De son côté, le Chili a prolongé de 3 mois l'état d'exception constitutionnelle pour catastrophe, pour freiner l'épidémie, tandis que l'Équateur a pour sa part prolongé de 60 jours l'état d'urgence. Le marché automobile européen s'est encore effondré de plus de 52% le mois dernier. La faute en revient bien sûr essentiellement à la crise sanitaire et aux mesures de confinement, même si les marchés mondiaux étaient déjà déclinants avant la pandémie. Et c'est aussi la raison pour laquelle, avec l'accélération du déconfinement, cette fois-ci un net redressement est attendu ce mois-ci grâce à la remontée en cadence des usines, mais aussi le retour des clients parfois attirés par des mécanismes de subvention à l'achat. Quand la Commission européenne tente de s'attaquer aux investissements étrangers, si le marché intérieur européen est aujourd'hui sans doute l'une des économies les plus ouvertes du monde, il semblerait que cette ouverture justement constitue aussi une faiblesse, et notamment en raison des distorsions de concurrence de plus en plus grandes du fait de subventions versées par des gouvernements étrangers. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. La Commission européenne, Pierre, a donc décidé de lancer aujourd'hui une consultation publique sur plusieurs instruments qu'elle compte finaliser au début de l'automne, et ce pour lutter contre les effets néfastes de ces subventions étrangères.
Oui, on attend encore le détail précis parce que les commissaires européens n'ont pas encore présenté exactement les grandes lignes de leur stratégie, mais on sait qu'elle doit reposer a priori sur 3 axes principaux qui sont baptisés pour l'instant les modules. Tout d'abord, la concurrence sur le marché intérieur européen. L'idée, c'est de créer là des instruments de surveillance d'ensemble. Si une subvention ou une aide directe d'un pays étranger est identifiée et qu'elle crée une distorsion de concurrence, alors des mesures de redressement seraient appliquées. Ça pourrait ressembler à des amendes, des réductions de production, voire des obligations de cession d'actifs, c'est-à-dire pour une entreprise subventionnée, de se retirer de certains secteurs d'activité. En revanche, si les subventions en question ont un impact positif pour le marché intérieur, qui dépasse en quelque sorte les dommages causés à la concurrence, là, les enquêtes seraient closes. Ce sont des instruments qui ressemblent en partie à ceux dont la Commission dispose pour surveiller les aides d'État versées par les pays de l'Union, mais qui lui font totalement défaut pour ce qui est des subventions étrangères. Les deux autres modules défense du marché intérieur européen seraient établis sur le même principe. Ils seraient spécifiquement destinés d'abord à protéger les marchés publics européens pour qu'une entreprise ne puisse pas profiter d'une subvention étrangère pour proposer un prix inférieur au coût réel ou au prix du marché. De la même façon, les subventions étrangères seraient examinées à la loupe pour les acquisitions de tout ou partie d'entreprises européennes pour qu'une firme étrangère ne puisse pas les contrôler ou les acquérir grâce à l'aide financière d'un pays non européen.
Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles. 6 mois après l'adoption de la loi César par le Congrès américain, ce nouvel arsenal de sanctions dirigées contre le pouvoir syrien d'une dureté et d'une ampleur sans précédent entre en application ce mercredi. Une première liste d'individus et d'entités tombant sous le coup de cette législation doit être publiée. Alors cette nouvelle loi vient s'ajouter en réalité au volumineux corpus de sanctions anti-Damas inauguré dès 1979 à l'époque de Hafez al-Assad, le père de l'actuel président, et encore musclé à partir de 2011 en réponse à la répression du soulèvement contre le régime baasiste. Reste à savoir qui en fera les frais, tant cet arsenal de sanctions menace désormais de placer le pays ruiné par la guerre au bord de l'asphyxie. Après avoir lancé lundi dernier des frappes aériennes sur des bases rebelles kurdes de Turquie dans le nord de l'Irak, Ankara a annoncé ce matin le déploiement de ses forces spéciales dans le cadre d'une opération terrestre, cette fois-ci baptisée Griffe d'aigle. Alors l'objectif est très clair et toujours le même, neutraliser les rebelles du Parti des Travailleurs du Kurdistan, le PKK, qualifié de groupe terroriste par la Turquie. Et à la mi-journée, le ministre de la Défense affirmait avoir déjà détruit plus de 150 cibles. C'est une correspondance à Istanbul signée Anne Andlauer.
C'est une opération d'ampleur, la plus grande de l'armée turque dans le nord de l'Irak depuis au moins 5 ans. L'opération Griffe d'aigle, comme l'a baptisée Ankara, avait commencé dans la nuit de dimanche à lundi par des frappes aériennes couvrant une vaste zone allant des monts Sinjar à l'ouest au mont Kandil à l'est, à grand renfort d'avions de chasse et de drones. 2 jours plus tard, l'opération est donc entrée dans sa phase terrestre sous le nom d'opération Griffe du Tigre, avec le déploiement de commandos. Leur incursion appuyée par des hélicoptères de combat et des drones armés a été précédée d'un intense bombardement d'artillerie. C'est ce qu'a affirmé le ministère turc de la Défense sur son compte Twitter, où il publie plusieurs fois par jour des vidéos de l'opération. Selon le ministère, l'armée turque vise des bases du Parti des Travailleurs du Kurdistan, le PKK, installé depuis une trentaine d'années dans les monts Kandil. La région du Sinjar, elle, est une cible plus récente d'Ankara, qui soutient que le PKK utilise ce massif montagneux comme couloir pour relier ses bases arrières de Kandil au nord-est de la Syrie. Mais Sinjar est aussi la terre des Yézidis, une communauté qui a subi les massacres du groupe État islamique en 2014. Pour les autorités turques, il s'agit d'exercer une pression maximale sur les combattants kurdes et leurs chefs, tandis qu'elles affirment avoir quasiment démantelé le groupe armé en Turquie même. Quelques heures après l'entrée des commandos turcs en Irak, le ministre de l'Intérieur annonçait triomphalement que seuls un peu plus de 400 terroristes, je cite, se trouvaient encore sur le territoire turc après 35 ans de combat.
L'Assemblée générale de l'ONU est appelée aujourd'hui à élire 5 membres non permanents du Conseil de sécurité pour les 2 prochaines années. 2 nations sont d'ores et déjà assurées d'être élues. L'Inde, seule candidate pour le groupe Asie-Pacifique, de même que le Mexique pour la région Amérique latine et Caraïbes. En revanche, et comme les années précédentes, le groupe Afrique n'a pas réussi, lui, à s'entendre sur un seul nom pour le siège qui revient au continent. De sorte que si le Kenya se targue d'avoir le soutien de l'Union africaine, Djibouti juge de son côté être prioritaire en vertu d'un principe de rotation. Quant au groupe Europe de l'Ouest, coutumier de la compétition, il verra s'affronter 3 candidats pour 2 sièges, le Canada, l'Irlande et la Norvège. Toujours à l'ONU, dans le contexte des manifestations qui depuis plusieurs semaines secouent la planète depuis la mort de George Floyd, ce quadragénaire noir asphyxié par un policier blanc, le Conseil des droits de l'homme tiendra aujourd'hui une session spéciale sur le racisme. Plusieurs États africains réclament une enquête de l'ONU sur les pratiques raciales discriminatoires et violentes des forces de l'ordre contre les personnes d'origine africaine et le racisme endémique structurel du système pénal aux États-Unis. Et puis, face justement à la colère antiraciste, Donald Trump a lui lancé hier une réforme limitée des forces de l'ordre. Le locataire de la Maison-Blanche a signé un décret interdisant notamment les prises d'étranglement, sauf en cas de danger pour la vie du policier, et encourageant les services de police à améliorer leur formation. Enfin, toujours aux États-Unis, on ajoutera que le gouvernement a engagé hier une action en justice afin afin de tenter de bloquer la publication le 23 juin du livre de l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, ouvrage qui s'annonce explosif pour le milliardaire républicain. Puis on vient tout juste de l'apprendre, en France, les autorités sanitaires viennent de décider de prolonger l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane, et ce jusqu'au 30 octobre. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par des pluies orageuses soutenues sur le nord-ouest du pays, des averses à l'ouest. Entre ces deux zones, le ciel restera plus variable et les ondées plus rares, mais il faudra aller près de la Méditerranée pour trouver un temps sec et lumineux. Quant aux températures, elles afficheront entre 16 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal, il a été réalisé par Nathalie Lopez, et à 18h vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.